Le dernier livre de Fabienne Verdier, après l'unique trait de pinceau en 2001, est une œuvre en soi. Fabienne Verdier y dialogue avec Charles Julliet ainsi qu'avec Denis Valode, l'architecte de son étonnant atelier. Dolores Maya et Naoya Atakeyama ont réalisé les magnifiques photographies de cet ouvrage très soigné. Quelques pages sont consacrées à la reproduction de ses carnets d'atelier qui nous en disent long sur l'intimité de sa démarche artistique. Fabienne Verdier, qui est entrée en peinture comme on entre en religion, a choisi de fonder son travail de peintre sur une synthèse entre la peinture occidentale et la calligraphie. La peinture est pour elle une ascèse, une manière de respirer, de se fondre dans l'univers, et c'est en solitaire qu'elle cherche un état proche de la méditation qui lui permette de libérer son corps et son esprit pour atteindre ce lâcher-prise qui fera alors monter toute son énergie créatrice. La toile posée sur le sol, elle cherche le geste juste. Sa concentration est au maximum, et c'est à cet instant que peut jaillir cet équilibre entre le vide et le plein qui fait d'une toile de Fabienne Verdier une grande leçon d'harmonie. Je vous propose d'écouter Fabienne Verdier. Apprentissage avec des maîtres chinois que vous avez décrits dans Passagère du silence.
Parce que je partais pour une initiation, je me suis mise en chemin. On nous enseignait plus grand-chose dans nos écoles d'art en France. Et je pensais, après avoir lu de nombreux ouvrages sur la poésie, sur la culture ancestrale chinoise et toute cette connaissance qu'avaient les lettrés de l'esthétique, la philosophie et la poésie, peut-être que je pouvais me nourrir de cette éthique-là pour créer une nouvelle esthétique dans ma peinture. Donc je suis partie avec mon petit sac à dos en Chine. J'avais 22 ans et je pensais rencontrer quelques derniers grands maîtres qui possédaient cette culture ancestrale pour me nourrir, pour grandir intérieurement et puis peut-être pour donner un sens à l'invention d'une nouvelle forme de peinture.
Alors, quand vous êtes allé étudier aux Beaux-Arts de Chongqing, au sud-ouest de la Chine, la ville ne comptait pas encore 35 millions d'habitants et n'avait pas été choisie pour être le fer de lance du développement économique de la Chine de l'Ouest. Quels sont vos souvenirs de la vie là-bas dans les années 90 ?
Alors, c'est une longue histoire que je raconte dans Passagère du silence. Mes souvenirs sont fascinants parce que maintenant, tous ces jeunes camarades de classe que j'avais, ces jeunes professeurs aux côtés duquel j'ai passé de nombreuses années, sont de très grands peintres reconnus, vendus à des millions de dollars à New York maintenant, dans les plus grandes ventes. Donc, ces peintres qui vivaient dans des conditions de vie, dans un système totalitaire, terrifiant, avec leurs petits bols de riz et les cafards dessus, j'ai partagé leurs repas et toutes ces soirées glauques. Mais je suis très heureuse d'apprendre maintenant qu'ils vivent de leur peinture, qu'ils vivent de leur art. Et voilà, donc j'ai plein d'aventures extraordinaires à raconter. Cette rencontre avec le vieux maître Huang Yuan, tout le travail que j'ai pu faire avec lui et toute cette rencontre que j'ai pu faire avec moi-même, parce que j'étais finalement... Je remercie le système totalitaire parce que je me suis retrouvée dans une petite cellule d'un bureau du parti à faire cette rencontre avec moi-même. Et je n'avais pas d'autre choix que de creuser en moi pour savoir qui j'étais, pour savoir comment je fonctionnais et quelle était cette alchimie intérieure, me reconnecter avec cette part d'intériorité, de spiritualité qui allait nourrir mon futur travail en suivant tout un enseignement. Parce que le vieux maître disait que si je voulais devenir un bon peintre et tenter d'apporter quelque chose de nouveau à l'histoire de la peinture, il fallait que je m'initie à cet art ancestral qui est l'art de la calligraphie et qui m'a effectivement appris une maîtrise de soi, une maîtrise du mental et du corps et de l'esprit à l'œuvre. Voilà, donc j'ai pratiqué ça pendant des années et j'ai su, au travers un petit trait de pinceau, comment incarner la vie, lui donner comment dans un coup de pinceau, une touche de peinture, parler d'esprit, donner un corps, une chair, une mouvance. Et c'est tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces nombreuses années d'assaise rigoureuse et de retraite totale du monde, finalement, dans le pays le plus peuplé de la Terre. C'est un paradoxe complètement fou. Me suis retrouvée là-bas à travailler sur moi-même et sur la maîtrise de la peinture.
Est-ce que vous êtes entré en peinture comme on entre en religion?
Certainement, parce que c'est ce que je vous explique, c'est que là, j'étais dans une situation un peu folle. Jamais, j'étais un petit peu inconsciente à 22 ans de partir dans ce système. Je n'avais pas pris la teneur de ce système qui était encore très totalitaire et très dur. Et je me levais à 5 heures du matin avec l'hymne national. Enfin bref, je faisais 2 ou 3 heures de queue pour avoir mon grammage de viande et mon grammage de riz tous les jours. Enfin, c'était une existence terriblement difficile. Mais comme j'étais avec d'autres camarades qui vivaient la même chose pour apprendre la peinture, c'était quand même des moments inoubliables d'échange d'humanité et d'amitié profonde.
À quel moment vous avez compris que votre voie était de chercher une synthèse entre la peinture occidentale et la calligraphie chinoise?
Eh bien, je n'ai jamais oublié que j'étais une occidentale, parce qu'ils me l'ont bien fait comprendre en se moquant de moi, en disant, regardez, là, ils me disaient le Dabizer, l'étrangère au long nez qui s'initie à cette culture qu'ils pensaient morte, hein, parce qu'ils n'avaient pas le droit de l'apprendre. On n'était qu'une dizaine d'années après la révolution culturelle et c'était encore très inquiétant et inabordable d'essayer ou de tenter de s'intéresser à ces textes anciens, à cette philosophie, à cette sagesse sous-jacente qu'il était interdit d'enseigner dans les écoles d'art à l'époque. Donc, mais voilà, je me suis initiée dans cette fournaise totalitaire en suivant ces quelques grands lettrés qui avaient à l'époque entre 80 et 100 ans. Donc ils sont presque tous morts aujourd'hui. Ils n'avaient pas été réhabilités. Et j'ai pu apprendre auprès d'eux une certaine philosophie, une certaine approche du vivant, un certain état d'être au monde qui donne de la teneur à toute ma peinture aujourd'hui, certainement. Et j'ai compris en revenant en France, après ces 10 années de vie en communauté avec tous ces esprits chinois, j'ai compris que ce qui m'avait transmis, c'était totalement universel. Quand je me suis réintéressée à nos cultures européennes, à nos grands poètes, j'ai trouvé chez Leopardi, chez Rilke, chez Goethe, chez nos grands mystiques, chez Jean de la Croix, chez Marguerite Porrette, chez Jean Toller, des propos sur la transmission de l'esprit de la vie qui étaient très très proches de ceux que m'avaient enseigné les vieux maîtres. Et je me suis dit que mon destin était là, certainement, de faire ce va-et-vient entre les cultures et d'inventer une nouvelle forme de peinture qui suive cette sagesse sous-jacente.
Mais la peinture, vue comme ça, c'est une assaise ?
La peinture, c'est une assaise, à mon sens. C'est une assaise très rigoureuse parce qu'elle demande à ce qu'on se retire du monde, elle demande qu'on fasse un travail sur soi pour se vider de tout ce qu'on croit être, de tout ce qu'on croit savoir, retourner à une certaine humilité, retrouver accepter notre grande ignorance face aux affaires de l'univers, reconnaître ce petit rien que nous sommes, mais dans ce petit rien que nous sommes, se reconnecter aux sources vives de l'être et comprendre qu'on a tous en nous une espèce de geyser, une espèce d'élan vital. Et j'essaie au bout de mon pinceau de transmettre cet élan vital et de créer une nouvelle forme d'abstraction qui ne soit plus une abstraction lyrique, mais qui soit une abstraction qui parle de cet esprit présent à toute chose et cette essence du réel.
Ce serait une abstraction spirituelle.
Peut-être.
Est-ce que la nature est une source d'inspiration ?
Bien sûr, elle est fondamentale, elle est très très importante pour moi. Et depuis toute petite, c'est vraiment le lieu. Je suis en total, j'ai une attitude contemplative très importante. Je vis dans un jardin. Le fait de passer de la maison aux ateliers, aux petits ateliers, aux grands ateliers, en passant par l'humeur du jour, en allant saluer les arbres, en causant avec mes carpe koi dans le bassin, en me pénétrant de toute la phénoménologie du jour, de me pénétrant des petites bruines du matin, des nuages qui passent, des bourrasques de vent, des branches d'arbres qui murmurent et qui jouent avec les éléments. Voilà, je pense que le fait d'aller saluer un brin d'herbe le matin me rappelle. Vous savez que l'attitude contemplative, c'est déjà un acte de création en soi, parce que votre cerveau se met en travail, essaye de comprendre l'ossature du monde, comment ça fonctionne, quelle est la sève qui crée cette si belle courbe, comment cette branche est dressée vers le ciel, comment elle c'est voilà. Donc en tant que peintre, j'essaye de comprendre le principe qui régit toute chose, le principe de vie, et ça me renvoie à mon alchimie intérieure, et je me sens pas bien différente du petit brin d'herbe. Je sens aussi cet élan vital, ce jaillissement intérieur, et ça m'aide à prendre mon pinceau et à avoir à dire cet esprit de la vie.
La solitude, c'est un mode de vie exigeant ?
C'est pas facile, mais pour celui qui n'a plus peur du silence, ça devient quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que pendant des années, en Chine, dans ma petite cellule de moine, j'avais peur du silence, parce que j'avais peur en fait de moi-même et de ces pensées qui me traversaient l'esprit, et des peurs profondes du conscient, de l'inconscient. Enfin. Et puis, à force de faire ce travail avec moi-même, maintenant, 25 ans après, de pratique et de nettoyage aux portes de l'être, je me rends compte qu'il est plein de mille et une formes de vie. Et plus on travaille cette acuité, plus on accepte de retourner à une certaine forme de vie banale, ordinaire, plus on est à l'écoute de l'infime, et de moindres petites gouttes d'eau qui tombent sur un bois, et plus je m'approche de cet infime-là, plus je suis proche de cette essence de réalité que je tente de transmettre dans ma peinture. Donc au contraire, il faut embrasser les affaires du silence, parce qu'elles sont pleines de toute l'histoire du monde qu'elles ont à nous raconter.
C'est donc la clé de votre travail, le silence ?
Oui, ce silence plein.
Poser la toile sur le sol, est-ce que ça change radicalement l'acte de peindre ?
Radicalement. C'est la grande invention des Chinois, mais le peindre à la verticale avec le pinceau entre ciel et terre. Jackson Pollock, ce grand peintre abstrait américain, avait compris déjà dans les années 50 que quand il lançait de la matière dans l'espace comme ça en marchant sur ses toiles, quand elle retombait, elle suivait ce principe de la gravitation universelle, et quand il redressait ses toiles, on appelait ça des drippings, il se trouve qu'il arrivait à une sorte de méditation cosmogonique. On était fasciné de voir à quel point c'était en accord avec les affaires du ciel. Eh bien, j'ai l'impression de poursuivre cette expérience-là. J'ai fabriqué des châssis sur lesquels je peux marcher dessus, qui supportent mon poids. Et je rentre dans l'espace maintenant de ces grands formats qui font entre 4 et 6 mètres. En rentrant dans l'espace des toiles, quand je prends mon grand pinceau de 2 mètres qui fait 60 kg de matière, j'ai effectivement des drippings aussi, c'est-à-dire l'encre qui coule entre ciel et terre. Mais à la différence de Pollock, j'insuffle la vie à la matière. C'est ce que les Chinois m'ont enseigné. Comment incarner la vie au trait ? C'est en insufflant une espèce de grande respiration, un flux énergétique, pour que ce trait soit habité habité par l'esprit de la vie. Et je, mon rêve de petite fille se réalise là, parce que je peins des tectoniques dessous, je peins des paysages abstraits, je monte sur, sur les hautes cimes, je dégringole dans les vallées, et je peins le paysage dans lequel je suis en train de me balader. Hein. C'est quelque chose du domaine de merveille, du merveilleux. Hein.
Quel rôle joue le hasard ?
Le hasard a un rôle très important parce que je joue avec un. Donc c'est en même temps, je ne fais plus qu'un avec mon pinceau, dans un oubli de moi, mais en même temps, l'acte de peindre est très difficile à expliquer parce qu'il est dans la maîtrise de tous mes sens, dans la réunification de toutes les énergies que j'ai dans mon corps et dans mon esprit. Et en même temps, c'est la maîtrise du lâcher-prise. C'est-à-dire que je suis là, j'ai l'intuition qui passe, je saisis les nuées d'encre, et tout le travail est d'être à l'écoute de ce qui advient, donc de ce hasard qui se présente, et dans ces nuées d'encre, dans ce chaos incroyable, tout à coup, quelque chose cherche à naître, hein, dans ce maelstrom infernal. Et là, il faut être dans cette écoute, cette suprême réceptivité que vous sentez, c'est donc une connaissance intuitive, c'est un acte de peindre qui n'est pas dicté par la pensée résonante, mais par une profonde intuition qu'on cultive, qu'on travaille, et avec l'expérience et les années, on est de plus en plus à l'écoute de cette intuition qui passe. Et tout à coup, quand vous la saisissez, quand vous voyez que dans la matière, elle cherche à surgir, là, je saisis les nuées d'encre et je foudroie la forme. Et ça dure quelques fractions de secondes. C'est comme une certaine compréhension subite que vous transmettez à la matière.
Vous écrivez dans vos carnets que le désir amoureux empêche de créer, alors qu'en Occident, les artistes disent plutôt le contraire. Est-ce que vous n'exprimez pas là une approche plutôt bouddhiste du monde ?
Je ne suis pas bouddhiste, je reste une petite ermite. Chacun invente sa propre religion et ses petits rituels. Mais je me suis rendu compte effectivement que si j'avais une vie mondaine, et donc quand je dis le désir, c'est le désir de, je sais pas, oui c'est ça, de la vie mondaine, de la vie en société, de sortir, de en fait, si j'ai cette vie-là. Je pourrais plus être dans une concentration extrême. Donc, mais ce n'est pas triste du tout d'essayer de polir un peu son existence pour cet état d'être, hein, cette disponibilité, cette concentration. Donc, c'est un choix de vie que j'ai fait.
La musique aussi tient une grande place dans votre vie ?
Une très grande place. Elle est d'abord la musique du silence, parce que c'est un tintamarre effroyable. La musique de la nature. Je cause souvent avec mes oiseaux qui viennent taper au carreau quand j'ai plus rien à manger dans les gamelles. Et puis, évidemment, parfois, j'ai une assaise rigoureuse tous les matins. Je travaille 4, 5, 6 heures dans l'atelier, la peinture. Et parfois, le souffle n'est pas au rendez-vous. Je suis vidée, je suis épuisée, mais il n'y a plus rien de bon qui sorte de moi. Je suis incapable de transmettre la vie au bout du pinceau. Et souvent, je me mets à chanter. J'ai créé encore un nouveau rituel. Et je mets Mozart, je mets Bach, je mets la voix de la Callas. Et tout à coup, en tentant de positionner ma voix sur la sienne, en tentant de chercher la sonorité au plus profond de l'être, en faisant monter le son, en sortant le chant de mon corps, eh bien c'est très curieux, c'est magnifique, parce qu'en sortant cette tonalité, c'est comme si je réunifiais, retrouvais l'un de mon être fragmenté. Hein, et quand tout à coup, je commence à chanter, je retrouve l'inspiration, il y a tout un élan qui se crée, et cette inspiration est magnifique, c'est celle-là même dont j'ai besoin pour peindre.
On retrouve là l'importance du souffle.
Bien sûr, c'est une affaire de souffle, toujours. Et pour moi, la peinture, c'est une grande respiration.
Vous dites l'inachevé est le principe même de ma peinture. Vous pouvez préciser ?
Pourquoi je dis l'inachevé ? Parce que quand je commence un coup de pinceau qui traverse l'espace de mes grandes toiles, donc c'est la concrétion, la minéralisation d'un souffle, d'un flux énergétique. Et si on regarde comment l'ossature d'un souffle, c'est un mélange de matière, de plein et de vide, et de petits filaments. Je tire mon pinceau, il y a les énergies qui se tirent, et c'est quelque part dans l'inachevé, c'est-à-dire que c'est jamais... Je suggère l'esprit de la vie, je n'interprète jamais une forme telle que je la vois, le paraître ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de suggérer. La peinture est comme une énigme, et je trouve que c'est beau que le contemplatif, celui qui se retrouve devant un tableau, soit libre d'aborder la forme poétique telle qu'il l'entend. Je ne lui impose pas une forme d'une pseudo-illusion de la réalité, mais je crée une abstraction qui suggère l'esprit de la forme et qui peut nourrir son esprit. Donc c'est pour ça que je dis que les plus belles toiles sont quelque part dans l'inachevé. Et c'est l'esprit du contemplatif qui ira se nourrir de cet inachevé.
Comment vous avez conçu votre atelier avec l'architecte Denis Valode ?
Eh bien, écoutez, c'est une histoire de fou, cet atelier, parce que c'est une très très belle amitié entre l'architecte et moi, parce qu'il a bien voulu me suivre dans une entreprise un peu incroyable, c'est de créer un lieu, une espèce de bâtiment, mi-chapelle, mi-fabrique, autour du pinceau. Hein. Donc j'avais besoin d'une lumière cistercienne, donc il a trouvé un moyen assez génial de capter la lumière pour qu'il y ait une stabilité de lumière extraordinaire et que jamais le soleil ne vient taper sur les œuvres, donc une approche un peu intérieure et spirituelle du travail. Donc il y a des lieux dans cet atelier, vous verrez dans le livre, où je réfléchis sur la peinture, je regarde si ce que j'ai pondu tient dans le temps. J'ai une espèce de grande fosse qui est le lieu qui n'est pas ouvert sur l'extérieur parce que je fais ce travail d'introspection et c'est là où se vivent toutes les expériences les plus folles, et avec mon pinceau je crée toutes ces œuvres. J'ai un autre bâtiment avec un petit poêle à bois où là je médite, je réfléchis, qui est totalement ouvert sur la nature, où la vie extérieure et la vie intérieure, on ne sent plus la différence. Donc quand il y a des grandes bourrasques l'hiver avec des flocons, j'ai l'impression d'être vraiment, de vivre les éléments, et ça nourrit mon esprit et ça nourrit mon travail de peinture. Voilà, donc on a créé ces ateliers qui m'aident vraiment à donner vie à cette nouvelle forme de peinture. Il y a une interaction très, très belle et très forte. Et voilà, c'est
une belle aventure.
Quels sont les artistes avec lesquels vous entrez en résonance ?
Bien, j'aime évidemment tous les grands abstraits. Je suis depuis toujours fascinée par Roscoe et cette ossature du vide qu'il essaye de donner dans ses toiles, et cette perception universelle et cosmogonique des résonances de l'âme humaine et de l'univers. Il a fait tout un travail magnifique. Je suis fascinée par Brice Marden, par Barnett Newman, par tous ces grands peintres abstraits qui ont tenté de donner une teneur et une réflexion sous-jacente, méditative. Tous ces abstraits qui ont créé une œuvre méditative qui apporte au monde quelque chose qui me semble essentiel aujourd'hui, c'est cette quête d'absolu.
Donc plutôt les minimalistes américains.
Oui, ou bien je viens de rendre un grand hommage à William de Kooning, qui a des coups de pinceau aussi toute sa vie d'une puissance extraordinaire. Donc je me suis enfermée plusieurs mois pour rendre hommage à une de ses œuvres de 6 mètres. J'ai créé un 6 mètres pour une fondation qui s'appelle la Fondation Hubert Loser. pour rentrer en résonance avec, avec son travail. Et c'était tout à fait fascinant pour moi. J'ai créé un paysage de flux qui rentre, qui est aussi d'une puissance qui, j'espère, accompagne son travail. On m'a demandé aussi de faire un hommage à Donald Judd, hein, avec ses échelles célestes là. Mais j'ai lu le journal de Donald Judd et j'étais fascinée de voir à quel point je me sentais proche de lui dans son exigence intérieure, dans sa recherche d'authenticité, d'épure, et ces grandes boîtes qui montent vers le ciel, ces espèces d'échelles célestes. Je retrouve ça dans le bambou et dans ce grand principe de poussée végétale. Donc j'ai créé aussi une grande œuvre de 3 mètres, 3 mètres 50. Et j'ai choisi une certaine mouvance qui passe de châssis, d'un châssis à un autre pour rentrer en résonance avec lui. Donc c'est un grand, grand bonheur que de pouvoir discuter comme ça au travers des installations et des œuvres avec d'autres grands créateurs.
Ce n'est pas un hasard si votre ouvrage « Entre ciel et terre » se termine par un cercle qui a pour titre « Vacuité ».
Je cherche évidemment cet état de vacuité pour laisser advenir le sublime du naturel, cette nature fondamentale, cet élan vital, cette perception limpide du voile de réalité qui nous entoure.
Fabienne Verdier, merci.